Alors, si vous fréquentez notre église depuis un certain temps, vous avez sans doute remarqué que nous attachons beaucoup d'importance à la théologie, ou pour le dire autrement, à la doctrine. Nous sommes une église dite confessante, une église confessante, ce qui veut dire que nous adhérons à une confession de foi relativement détaillée, qui a valeur de référence, on rit pas, qui a valeur de référence pour notre église, un peu comme une constitution doctrinale, d'accord? Mais tout ça, cette réalité en tout cas nous a valu de temps à autre des critiques du genre toute cette doctrine étouffe le Saint-Esprit. Ou encore, avec votre théologie, vous avez mis Dieu dans une boîte. Ou encore, c'est votre confession de foi qui dirige l'Église et pas Jésus. Alors ces reproches sont assez sérieux, n'est-ce pas? Le problème, c'est que ces reproches, à mon avis, procèdent d'une mauvaise compréhension de la relation qu'il y a entre le Saint-Esprit et la doctrine, et aussi d'une mauvaise compréhension de la façon dont Jésus, selon la Bible, compte en fait diriger son Église. Premièrement donc, la doctrine chrétienne n'étouffe pas le Saint-Esprit, précisément parce que la doctrine, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit aux apôtres au sujet de leur mission, qui allait consister entre autres à transmettre le Nouveau Testament à l'Église du premier siècle, il leur a dit donc avant de les quitter, il leur a dit quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Et effectivement, le travail des apôtres au premier siècle, ça a été de transmettre la doctrine du Nouveau Testament à l'Église du premier siècle, et par conséquent à toute l'Église. L'apôtre Pierre, quant à lui, affirme dans un passage assez connu que c'est le Saint-Esprit qui est à l'origine du contenu de la Bible, et à cette révélation du Saint-Esprit qu'il appelle prophétie, il va opposer un autre genre de révélation qu'il appelle hérésies qui sont transmises par des faux docteurs, dit-il. Voici ce qu'il dit. Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition. Vous voyez, dans la mentalité de l'apôtre Pierre, il oppose d'une part l'œuvre du Saint-Esprit qui transmet des prophéties, et donc la bonne doctrine, et de l'autre côté, il y a les faux docteurs qui transmettent des hérésies de perdition. La bonne doctrine, donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, et elle n'étouffe pas le Saint-Esprit, elle est plutôt destinée à étouffer les adversaires du Saint-Esprit, ces fameux faux docteurs qui transmettent, quant à eux, des hérésies de perdition. Deuxièmement, Jésus dirige l'Église par le moyen de sa parole, c'est-à-dire par le moyen de la Bible et de la doctrine qu'elle contient. Et c'est pourquoi Jésus, dans un autre passage bien connu, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, donc tous ces ministères concernent la proclamation de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il les a donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints, dit Paul. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, qui est donc l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, dit-il, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15. Pardon, oui, excuse-moi. Première référence, c'était Jean 16, verset 13. La deuxième, 2 Pierre 1, 21. Et le verset suivant, qui est au chapitre 2, verset 1. On n'a peut-être pas l'habitude de les lire à la suite, ces deux versets, mais c'est intéressant de voir qu'il parle d'une part, dans ce passage, Pierre, de l'œuvre de l'Esprit, et puis, à côté de ça, l'œuvre des faux docteurs et la présence des hérésies. Bon. Jésus dirige donc son Église, oui, et il compte le faire par le moyen de sa parole. Il dirige l'Église, oui, mais il compte le faire par le moyen de sa parole. Par conséquent, la doctrine biblique est censée être d'une importance capitale dans la vie de toute Église chrétienne qui se réclame du Christ. Parce que c'est par ce moyen-là que Christ dirige son Église. Et c'est pourquoi il est très important pour nous cet après-midi de réfléchir au rapport qui doit exister entre les anciens, c'est-à-dire, par anciens, rappelez-vous ce qu'on veut dire par ce mot, les anciens, c'est-à-dire les hommes qui occupent la fonction de responsable dans l'Église locale. D'accord? Donc le rapport étroit entre les anciens, ces hommes qui occupent cette fonction de responsable dans l'Église locale, et la doctrine chrétienne, la doctrine biblique. Et si j'insiste aussi longuement en introduction sur l'importance de la doctrine dans l'Église, c'est parce que Il existe certains mouvements aujourd'hui qui mettent un accent important sur des choses plutôt bonnes par ailleurs, comme l'échange, l'accueil, le dialogue, la spontanéité, l'expérience personnelle, voire même le travail social, mais qui le font au détriment de la proclamation fidèle, courageuse et franche de la parole de Dieu qui est infaillible et qui fait objectivement autorité. D'après le prophète Ésaïe, le bâton de commandement, ou le sceptre, selon les traductions, du Messie, c'est quoi? C'est la parole. Ésaïe 11, verset 4. D'après l'apôtre Paul, l'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. D'après l'auteur de l'épître aux Hébreux, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Et d'après l'apôtre Jean, cette épée à double tranchant, dans cette fameuse vision du Christ ressuscité et exalté en introduction au livre de l'Apocalypse, cette parole, cette épée à double tranchant, pardon, elle sort de la bouche de Jésus qui est où à ce moment-là? Il est debout au milieu des chandeliers, dit l'apôtre Jean. Les chandeliers représentent l'Église. Il est donc présent, exalté, il règne au milieu de l'Église. Et qu'est-ce qui sort de sa bouche? L'épée à double tranchant qui est sa parole. Jésus compte diriger l'Église par le moyen de sa parole. Le Saint-Esprit exerce sa puissance principalement par le moyen de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est fidèlement proclamée, on peut donc s'attendre ordinairement à ce que Dieu agisse extraordinairement. Lorsque la parole de Dieu est proclamée fidèlement, on peut s'attendre ordinairement à ce que Dieu agisse extraordinairement. Parce que c'est ce moyen-là qu'il compte utiliser pour agir dans l'Église et à travers l'Église qui est, d'après Paul, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Ok, j'ai assez insisté sur l'importance de la doctrine, ça va? Vous avez reçu le message. Et les anciens dans tout ça? Eh bien, en tant que responsable de l'Église locale, c'est-à-dire occupant la fonction de berger ou de conducteur, ils doivent connaître la doctrine, ce sera mon premier point, dispenser la doctrine, deuxième point, et protéger la doctrine, troisième point. Et à ces trois points principaux, j'ajouterai deux points supplémentaires pour parler de la place de la confession de foi dans l'Église et dans le ministère des anciens, et aussi pour parler de la différence et du rapport entre un ancien et un pasteur. D'accord? Vous avez le plan de l'exposé sous les yeux. Alors, vous l'avez compris, la doctrine biblique provient de la Bible. L'ancien est donc un homme de la Bible, c'est-à-dire un homme qui aime la Bible, qui lit la Bible, qui étudie la Bible, qui connaît la Bible plutôt bien. Souvenez-vous que d'après Calvin, les anciens sont comme des lieutenants, c'est l'expression qu'il utilise, des lieutenants de Jésus dans l'Église, c'est-à-dire qu'ils sont des représentants de Christ, et ils sont chargés d'une mission de la part de Christ. Et ils sont investis d'une autorité qui ne leur est pas intrinsèque à eux, qui ne leur est pas propre à eux en tant que personne, mais que Jésus leur a confiée. Maintenant, imaginez un lieutenant dans une armée qui n'aurait aucune idée de la volonté de son état-major. Il serait bien ridicule, certainement inefficace et peut-être même dangereux pour ses troupes. Les anciens doivent être des hommes de la Bible parce qu'ils sont censés reconnaître la centralité de la Bible dans la vie de l'Église qu'ils sont chargés de conduire de la part de Jésus-Christ. D'accord ? Donc, les anciens doivent reconnaître déjà que c'est par le moyen de sa parole que Jésus dirige son Église. Et s'ils le reconnaissent, par conséquent, logiquement, ils doivent reconnaître et admettre et affirmer la centralité de la Bible dans la vie de l'Église. Et si eux sont responsables de conduire l'Église, alors eux-mêmes doivent être des hommes de la Bible. La Bible, voyez-vous, c'est la volonté de l'état-major, pour l'Église, si je peux m'exprimer ainsi. C'est aussi l'outil principal de la fonction d'ancien. Un ancien qui ne connaît pas la Bible, comme un lieutenant qui ne connaît pas la volonté de son état-major, c'est quelqu'un de ridicule, d'inefficace et dangereux. L'ancien qui est un homme de la Bible a donc ce qu'il convient d'appeler une théologie biblique. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, une théologie biblique? Une théologie biblique, C'est une théologie, ou on pourrait appeler ça un enseignement, ou un ensemble de doctrines, qui se base sur l'ensemble de la révélation considérée dans son histoire et sa progression. Donc qui se base là-dessus plutôt que sur un système. D'accord ? Une théologie qui se base sur l'ensemble de la révélation considérée dans son histoire et sa progression plutôt que sur un système. C'est la différence, si vous voulez, entre un bibliste et un dogmaticien. Ça, je ne l'ai pas complètement perdu. C'est la différence entre... Je vais essayer d'illustrer ça. Les deux, en tant que bibliste et en tant que dogmaticien, les deux peuvent avoir raison sur un sujet donné, sans problème. Mais le bibliste va calquer sa théologie sur l'Écriture, sur la Bible, et se référer à des catégories qui sont celles de l'Écriture. Tandis que le dogmaticien, lui, il crée ses propres catégories afin d'ériger un système doctrinal cohérent, généralement à des fins pédagogiques. D'accord ? Il va classer sa matière, sa doctrine, selon des catégories qu'il va créer lui-même à des fins pédagogiques. Tandis que le bibliste, lui, il va se référer aux catégories qui sont déjà celles de l'Écriture. Imaginez que vous vouliez vous informer, par exemple, sur la bataille de Waterloo, événement historique. Alors, pour vous informer là-dessus, vous pouvez soit lire un récit historique de l'événement, peut-être même de quelqu'un qui a vécu l'événement, qui vous raconte ce qui s'est passé. Ça, ce serait l'approche de la théologie biblique. Soit vous pouvez consulter une encyclopédie. Et vous allez directement à l'article Waterloo, et vous voyez comment l'encyclopédie aura classé la matière de façon différente. Et ça, ce serait plutôt l'approche de la théologie dite systématique. D'accord ? Vous voyez la différence entre le bibliste et le dogmaticien, entre la théologie biblique et la théologie systématique. Ce n'est pas un jugement de valeur sur le contenu, mais c'est une différence de méthodologie. Okay ? Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'il est plus important, en ce qui concerne les anciens, il est plus important que l'ancien ait une bonne théologie biblique qu'une bonne théologie systématique. Il est plus important qu'il ait une bonne théologie biblique qu'une bonne théologie systématique, parce que son travail à l'ancien ne consiste pas à être un professeur de théologie, d'accord ? Il ne consiste pas à être une encyclopédie ambulante, mais son travail consiste à être un porte-parole de Jésus auprès des brebis de son troupeau. Et l'outil que Jésus confie à ses lieutenants, ce n'est pas un précis de théologie, ce n'est pas même une bibliothèque de théologie, d'ouvrage théologique, l'outil qu'il confie à ses lieutenants, c'est sa parole, la Bible. Et c'est ça qui nous amène au point suivant. L'ancien sait ce qu'il croit et pourquoi il le croit. L'avantage d'une théologie biblique, c'est que non seulement on sait ce qu'on croit, mais on sait pourquoi on le croit. Toute doctrine n'a de légitimité que si elle est biblique, pas parce qu'elle est écrite dans tel ou tel manuel ou précis de théologie. Une doctrine n'a de légitimité que si elle est biblique. L'inconvénient de la théologie systématique, si utile soit-elle par ailleurs, parce qu'on ne va pas dire que ce n'est pas utile, loin de là, c'est indispensable une bonne théologie systématique, mais l'inconvénient, c'est qu'on peut connaître par cœur la définition de la théologie cataphatique par opposition à la théologie apophatique, ou encore la définition du supralapsarianisme par opposition à l'infralapsarianisme, on peut connaître ça par cœur, sans pour autant être capable d'expliquer à un simple membre de l'Église, Bible en main, ce que Dieu dit sur ces sujets que j'ai mentionnés. On l'a dit, l'ancien n'a pas d'autorité en lui-même. Son autorité lui est donnée par Christ, le chef de l'Église. La seule légitimité de ce que fait ou dit un ancien dans le cadre de son ministère se trouve donc dans la Bible, la parole de Christ, l'épée à double tranchant qui sort de sa bouche. La légitimité de ce que fait ou dit un ancien ne se trouve pas dans l'institution chrétienne de Jean Calvin, et pourtant j'aime beaucoup ce livre. Elle ne se trouve pas dans la théologie systématique de Louis Berkhof ou de Wayne Grudem ou d'autres grands théologiens. Ce n'est pas là que se trouve la légitimité de ce que fait et dit un ancien. Encore une fois, de tels ouvrages et de tels théologiens sont indispensables, oui. Ils sont fort utiles, oui. Mais l'ancien doit être un homme de la Bible avant tout. Il sait ce qu'il croit et il sait pourquoi, d'après la Bible, il le croit. Et on va voir tout à l'heure pourquoi il est très important que la théologie de l'ancien soit ainsi ancrée dans une bonne connaissance de l'Écriture. On verra ça dans un petit moment. Deuxième point principal, dispenser la doctrine. Donc l'ancien n'est pas seulement censé connaître la doctrine, mais il est censé aussi la dispenser. Il est chargé en tout cas de la dispenser. Rappelez-vous qu'une des exigences présentées par Paul concernant la fonction d'ancien, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2, c'est d'être apte à l'enseignement. Apte à l'enseignement. Dans son épître à Tite, Paul est encore plus explicite. Écoutez ce qu'il dit. L'ancien doit être attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée. Ça, c'est une bonne théologie biblique. Être attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Tite 1, verset 9. Ça ne veut pas dire que les anciens ont tous un ministère d'enseignants à part entière. D'accord ? Ça ne veut pas dire ça. Tous les anciens ne sont pas appelés à prêcher ou à conduire une étude biblique. Ce que ça veut dire, c'est que d'une part, les anciens doivent être capables de formuler de façon cohérente ce qu'ils croient et pourquoi ils le croient, comme on vient de le voir, mais aussi que c'est eux, les anciens, qui sont responsables de veiller à ce que la Bible soit enseignée dans l'Église et donc, en tant qu'anciens, ils organisent cet enseignement dans le cadre de l'Église locale. Les anciens, donc, vont décider ensemble ou approuver ensemble ce qui va être abordé dans le cadre des prédications au culte, par exemple. On n'a peut-être qu'une personne qui prêche au culte, mais il le fait sous l'autorité de l'ensemble des anciens qui vont organiser l'enseignement dans le cadre de l'Église. De même pour l'étude biblique. Les anciens choisissent ou approuvent également les intervenants extérieurs, comme les prédicateurs de passage. Imaginez que quelqu'un vienne ici, prêche un dimanche, et dise une grosse bêtise, d'accord, un truc complètement à côté de la plaque, en termes de théologie biblique, n'est-ce pas ? C'est aux anciens d'assumer derrière, et voir éventuellement, publiquement, de corriger ce qui s'est passé. D'accord ? Tout ça se fait sous le couvert de cette responsabilité des anciens qui doivent veiller à, et organiser l'enseignement dans le cadre de l'Église. S'il y a une table de livres dans l'Église, c'est aux anciens d'approuver quels livres vont y figurer. D'accord ? Les anciens, donc, discernent quels sont les besoins dans l'Église et ils vont organiser l'enseignement en fonction de ce qu'ils jugent utile. Si le pasteur titulaire termine une série de prédications dans 1 Timothée, par exemple, les anciens, de façon collégiale, vont se consulter pour essayer de décider ensemble ce qu'il convient d'aborder par la suite, en fonction des besoins de l'Église, qu'ils vont discerner ensemble. Est-il utile de rappeler ici que c'est la Bible qui doit être enseignée, c'est la Bible qui doit être proclamée, c'est la Bible qui doit être prêchée ? Bien sûr que c'est la Bible qui doit être enseignée dans le cadre de la prédication, par exemple. Et c'est pourquoi dans notre Église, on attache beaucoup d'importance à ce qu'on appelle la prédication textuelle. C'est un peu le pendant de la théologie biblique, si vous voulez. La prédication textuelle. Nous croyons à l'efficacité de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous cherchons à la prêcher pour que la prédication soit efficace. Nous cherchons à la prêcher en restant le plus fidèle possible au fond et à la forme de tel ou tel texte biblique qui constitue le sujet et l'objet du message. C'est aussi pourquoi en études bibliques, par exemple, chez nous, le jeudi soir, on favorise l'étude suivie des livres de la Bible. Pourquoi ? Parce qu'on croit ce que la Bible dit à son sujet, qu'elle est efficace, que la parole de Dieu est efficace, comme cette épée à double tranchant qui réalise, le moyen, qui est le moyen par lequel Jésus réalise son œuvre parmi son peuple. Mais maintenir la centralité de la Bible dans l'enseignement, notamment dans le cadre du ministère des anciens, cela veut aussi dire que c'est l'enseignement de la Bible qui doit être transmis lorsque les anciens sont sollicités pour d'autres choses, comme pour un soutien moral, quelqu'un qui traverse une période de difficulté, qui sollicite les anciens. Les anciens ne vont pas y aller et essayer de faire preuve d'originalité pour les sortir de leurs problèmes. Ils vont y aller avec la mission et la charge principale qui est de transmettre les enseignements de la Bible qui sont pertinents par rapport à la situation de cette personne. D'ailleurs, dans le cadre de ce qu'on appelle la relation d'aide, que parfois les anciens sont appelés à faire, juste parce qu'il y a des besoins dans la vie de personnes dans l'Église, de même, les anciens ne sont pas des psychologues ou des psychothérapeutes, donc ils n'ont pas vraiment de conseils de spécialistes à donner en termes de psychologie dans ce domaine. En revanche, les anciens, comme je l'ai dit, sont des biblistes. Ce sont des spécialistes de la Bible. Ils sont censés l'être, en tout cas. Des biblothérapeutes, si vous voulez. Et si vous croyez, vous, que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est vraiment la parole de Dieu, et que sous l'action puissante du Saint-Esprit, cette parole est efficace pour enseigner, convaincre, redresser, éduquer dans la justice, comme le dit Paul de Timothée 3,16, et donc par conséquent qu'elle est efficace aussi pour répondre à vos problèmes, à vos doutes, à vos découragements et à vos difficultés relationnelles, alors dans bien des cas, personnellement, je vous conseillerais de consulter les anciens plutôt qu'un psy quand vous traversez ces périodes de doute, de découragement ou de difficultés relationnelles. En dispensant la Bible, c'est-à-dire en la transmettant, en l'enseignant, l'ancien agit donc comme un représentant de Jésus. Et c'est une énorme responsabilité. Une énorme responsabilité. Les conseils que les anciens sont amenés à donner, et à plus forte raison, les décisions qu'ils sont amenés à prendre, doivent toujours, toujours être informées par la Bible. Et plus que cela, ils doivent être ancrés dans la Bible. C'est de cette manière-là que Jésus dirige, nourrit et protège son Église. Les anciens sont les garants de la bonne santé de l'Église, de la bonne santé spirituelle de l'Église. Ce sont les globules blancs du corps du Christ, si vous me permettez l'expression. Une Église dont les anciens sont pauvres en termes de connaissance de la Bible, c'est une Église dont on pourrait faire un prélèvement de sang, l'analyser au laboratoire et constater que le taux de globules blancs est très bas. Et par conséquent que le système immunitaire est fragile. Et cela nous mène directement au troisième point. Les anciens doivent connaître la doctrine, ils doivent la dispenser, mais ils doivent aussi la protéger. Protéger la doctrine. Voici ce que Paul a dit aux anciens de l'église d'Éphèse quand il leur a dit au revoir au chapitre 20 du livre des Actes. Voici ce qu'il leur a dit, versets 27 à 32. Sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner, et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. La première chose à retenir ici, c'est que la doctrine biblique constitue l'objet d'attaques, et cela depuis bien longtemps. Il faut en avoir conscience afin d'être vigilant. Il faut en avoir conscience afin d'être vigilant. Vous avez vu avec quelle émotion l'apôtre Paul en parle lui-même au moment de dire au revoir aux anciens d'une église qu'il a établie. Et il existe bien d'autres passages dans la Bible qui montrent que la doctrine biblique nécessite d'être protégée et défendue contre les attaques de ses adversaires. Bien des passages qui en parlent. Ces attaques contre la doctrine biblique vont être différentes en fonction des époques, bien sûr, en fonction des cultures et des contextes géographiques. Aux anciens, donc, d'être vigilants et de ne pas hésiter à appeler un chat un chat lorsqu'ils sont confrontés à un enseignement qui contredit l'Écriture. La Bible appelle cela parfois, ces autres enseignements, contraires à l'Écriture, parfois la Bible appelle cela des doctrines de démons. Parfois la Bible appelle cela des hérésies de perdition, comme on l'a vu tout à l'heure dans le passage de l'apôtre Pierre. Et ces fausses doctrines peuvent concerner aussi bien la croyance que la conduite. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, on peut être hérétique en termes de ce qu'on croit, mais on peut aussi être hérétique en termes de ce qu'on fait et de ce qu'on enseigne au niveau pratique. Donc des enseignements qui contredisent la théologie biblique sont des hérésies, mais des enseignements qui contredisent la morale biblique sont également des hérésies. Donc, il faut être lucide et vigilant. Les anciens, particulièrement, doivent être lucides et vigilants dans l'exercice de leur ministère. Mais deuxièmement, je voudrais revenir sur l'importance pour les anciens d'avoir une théologie biblique plutôt que purement systématique. Je vous avais dit que j'y reviendrai. Pourquoi ? Parce que cela, en ayant une théologie biblique, cela nous permet de discerner plus facilement entre les doctrines essentielles qui méritent d'être défendues bec et ongle, voire au péril de sa vie, et les autres doctrines, les doctrines secondaires, qui sont certes importantes, mais qui ne méritent pas un tel déploiement d'énergie. Pourquoi une théologie biblique nous aide plus facilement à faire cette distinction plutôt qu'une théologie systématique ? Eh bien parce que dans la Bible, considérée dans sa continuité et sa progression, dans la Bible, toutes les doctrines n'ont pas la même importance. Et on juge cette importance, d'une part, au caractère plus ou moins explicite de ces doctrines dans la révélation biblique, et d'autre part, aux enjeux théologiques plus larges qui leur sont attachés. D'accord ? Donc d'une part, par rapport au caractère plus ou moins explicite de ces doctrines, et d'autre part, par rapport aux enjeux théologiques qui leur sont attachés. Et il est très important pour les anciens de tenir compte de cette échelle d'importance, parce que les anciens ont la tâche difficile de maintenir à la fois la fidélité de l'Église et l'unité de l'Église. La fidélité de l'Église aux Écritures et l'unité de l'Église, c'est-à-dire la bonne entente fraternelle entre les membres qui constituent l'Église. Et déjà entre les anciens qui sont chargés de conduire l'Église. J'ai donc identifié trois niveaux d'importance entre diverses doctrines. Peut-être qu'on pourrait être encore plus subtil et en identifier quatre ou cinq. Bon, trois niveaux d'importance principaux entre diverses doctrines, et je vais vous donner quelques exemples pour chacun de ces niveaux. Premier niveau, les doctrines essentielles, c'est-à-dire en dehors desquelles vous ne pouvez pas vous considérer comme un chrétien protestant évangélique, d'accord ? Par exemple, la doctrine de Dieu, et notamment de certains de ses attributs, Dieu unique et trinitaire, Dieu immanent et transcendant, Dieu personnel et libre, Dieu éternel et souverain, etc., etc. Un exemple. Un autre exemple, ce serait la doctrine de l'homme, créé à l'image de Dieu, investi d'un corps et d'une âme, d'un esprit et d'une conscience, capable d'une relation personnelle avec Dieu, etc. Autre exemple, la doctrine de la chute. Adam, le premier homme, a désobéi à Dieu, ce qui a entraîné la chute de toute l'humanité dans le péché et dans la mort. Par conséquent, l'homme est incapable de se sauver lui-même, etc. On est là dans le cadre de doctrines absolument essentielles, en dehors desquelles vous ne pouvez pas vous considérer comme étant un chrétien protestant évangélique. Et pour certaines de ces doctrines, vous ne pouvez même pas vous considérer être un chrétien, point final. Ni catholique, ni orthodoxe, ni quoi que ce soit d'autre. Autre exemple, la doctrine de l'inspiration divine des Écritures. La Bible est infaillible et elle fait autorité en matière de croyance et de conduite. Autre exemple, en tout cas dans une certaine mesure, la doctrine de l'Église, notamment que Christ est le chef de l'Assemblée des croyants en tout lieu et à toute époque, et qu'il a institué deux sacrements seulement, le baptême et la Sainte Cène. Si vous croyez qu'il n'y a pas de sacrement, vous n'êtes rien du tout. Si vous croyez qu'il y a plus que deux sacrements, vous n'êtes pas, certainement pas un protestant, peut-être un catholique. Et puis la doctrine du retour de Jésus, pareil, de la même façon, dans une certaine mesure seulement, notamment sur le fait qu'il va revenir corporellement dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Vous voyez, je vous ai donné des exemples de doctrines absolument essentielles. On pourrait en rajouter certainement la naissance virginale, la résurrection corporelle de Jésus, et ainsi de suite, hein, évidemment. Le deuxième niveau d'importance en termes de doctrine concerne les doctrines qui sont importantes mais pas essentielles. Importantes mais pas essentielles. C'est-à-dire en dehors desquelles vous pouvez être un chrétien protestant évangélique, mais vous ne pouvez pas être un ancien dans notre Église. D'accord ? Importantes mais pas essentielles. Vous pouvez être un chrétien protestant évangélique, être sauvé bien entendu, mais vous ne pouvez pas occuper la fonction d'ancien, notamment dans notre Église. Et vous allez peut-être trouver mes exemples un peu arbitraires, mais je les retiens en particulier à cause des enjeux de l'actualité. Et ces doctrines-là, sur lesquelles il va falloir plutôt insister à certains moments qu'à d'autres, les exemples que je vais vous donner, c'est parce que ce sont des doctrines qui sont actuellement attaquées à cause de la culture ou d'autres choses comme ça. Et puis certaines de ces doctrines sont également juste attachées à l'identité théologique de notre Église. Vous allez voir, vous allez comprendre avec mes exemples. Eh bien, globalement, par exemple, ce qu'on appelle la théologie de l'alliance par opposition au dispensationalisme. Alors là, je jette des gros mots, encore une fois, je suis désolé. Nous croyons à l'unité de la continuité, pardon, à l'unité et à la continuité de l'histoire de la révélation et de l'histoire du salut. En fait, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous renvoie aux enregistrements qui ont été faits en courant de l'année dernière sur la formation théologique qu'on a intitulée Le Bon Dépôt. Il y a 8 numéros, je crois, oui, qui sont tous sur le site internet de l'Église. Vous pouvez les écouter si vous voulez savoir de quoi je veux parler. Mais en tout cas, il y a des églises qui croient que l'histoire du salut se divise de façon profonde et importante entre sept dispensations bien distinctes où les modalités du salut sont différentes entre chaque dispensation. Tandis que nous, en tant qu'église réformée, et avec les églises de la réforme en général, y compris, bon, je ne vais pas trop vanter, mais y compris les pères de l'église, nous croyons à la continuité et à l'unité de l'histoire du salut, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle la théologie de l'alliance, parce que nous disons qu'il n'y a qu'une seule alliance de grâce en vertu de laquelle les hommes sont sauvés, par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre modalité pour le salut. Alors un autre exemple de doctrine importante mais pas essentielle, en dehors desquelles vous ne pourriez pas être ancien de notre Église, eh bien la question des dons charismatiques. Par dons charismatiques, j'entends les dons spirituels qu'on appelle le parler en langue, la prophétie, les dons de guérison, etc. Je ne suis pas en train de dire que nous ne croyons pas à la guérison, et nous ne croyons pas au don de guérison comme ministère à part entière, quelqu'un qui a le don de guérir. On a des raisons pour cela, je ne vais pas entrer dans le détail maintenant, mais nous sommes une église réformée, et d'après notre théologie biblique, nous ne croyons pas que ces dons s'exercent aujourd'hui de la même façon qu'ils s'exerçaient pendant la période apostolique. Et si vous voulez, on peut en discuter davantage plus tard, mais ça aussi on l'a abordé brièvement, je le reconnais, dans le cadre de la formation théologique Le Bon Dépôt. Mais on pourrait en discuter, mais en tout cas, voilà un exemple. Bien sûr qu'on peut croire à la continuité de ces dons, et même être membre de notre Église, on ne pourra pas être ancien de cette Église. Autre exemple, la doctrine des ministères. Nous croyons, en l'occurrence, à l'existence de deux ministères, de deux offices dans l'Église, celui d'ancien et celui de diacre. Peut-être de trois, si on considère le ministère de pasteur comme un ministère à part entière, distinct des deux autres. Il y a un petit peu débat là-dessus, ce n'est pas très très grave. Mais en tout cas, cela, nous le croyons, par opposition à ceux qui ne croient à aucun office dans l'Église, à aucun ministère dans l'Église. D'accord ? Il y en a qui le croient. Ou ceux qui croient à l'office d'évêque, par exemple, comme étant un office à part entière. Je pense à l'Église anglicane, par exemple. Autre exemple, la doctrine de la différenciation des rôles et des devoirs des hommes et des femmes, principalement dans la famille et dans l'Église. Et je le dis par opposition à ceux qu'on appelle des égalitariens, qui pensent que cette différenciation des rôles et des devoirs entre les sexes est abolie par Christ, au moins pour ce qui concerne les fonctions dans l'Église. En l'occurrence, dans notre Église, nous ne croyons pas au ministère pastoral des femmes, ni au ministère d'anciens pour les femmes. Là aussi, nous avons des raisons de le croire, et on peut très bien en discuter si vous voulez. Ou encore, autre exemple, c'est mon dernier exemple, la doctrine des sacrements. Vous savez qu'il existe plusieurs positions sur le rôle des sacrements, le rôle des sacrements dans la vie de l'Église, et la compréhension même des sacrements. Nous ne croyons pas, par exemple, à la consubstantiation, comme le croient les luthériens. Ah, je suis désolé. La consubstantiation. Donc, c'est l'idée selon laquelle le pain et la coupe cachent le corps de Christ. Le pain et la coupe ne se transforment pas, comme le croient les catholiques, en corps de Christ et en sang de Christ. Donc, ça reste du pain et du vin. Mais il cache, en tout cas, le corps de Christ, présent localement, réellement dans le pain, mais sous une forme mystérieuse et cachée. D'accord ? Nous ne croyons pas à cela, ça s'appelle la consubstantiation. Et nous ne croyons pas non plus que les sacrements ne sont que des ordonnances purement symboliques. Nous ne le croyons pas non plus. Nous croyons que les sacrements ont une efficacité spirituelle pour ceux qui les reçoivent par la foi. Donc ce n'est pas une efficacité ex opere operato, comme on dit, comme le croient les catholiques, qu'ils ont en eux-mêmes, mais ils sont rendus efficaces par le Saint-Esprit pour ceux qui les reçoivent par la foi. Là aussi, on peut en discuter si vous voulez. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ce n'est pas tellement le but. Mais je vous donne des exemples de doctrines qui sont importantes par rapport à qui nous sommes en tant qu'Église, par rapport à notre théologie, que nous croyons biblique, être biblique, et que nous allons défendre en tant qu'anciens. Mais on n'a pas besoin d'y croire pour être membre de l'Église. On n'a pas besoin d'y croire pour venir à l'Église. On n'a pas besoin d'y croire pour être sauvé. D'accord ? Mais on a besoin d'y souscrire pour être ancien de l'Église, parce qu'on va protéger cette doctrine. Et troisièmement, il y a des doctrines qui sont moins importantes et qu'on pourrait qualifier de secondaires, parce qu'elles ne sont pas présentées ou soutenues aussi explicitement dans la Bible. Ces doctrines ne conditionnent pas, donc, votre protestantisme évangélique, votre foi chrétienne, et elles ne sont pas non plus rédhibitoires en ce qui concerne le ministère d'anciens, dans notre Église en tout cas. Donc on peut croire à ces choses-là, avoir des positions différentes et quand même être ancien dans notre Église. Et je vais vous donner quelques exemples. Exemple, les modalités pratiques d'administration des sacrements. Il y a des gens qui croient que c'est un... qui croient, selon leur doctrine, qu'il faut nécessairement avoir du vin plutôt que du jus de raisin dans la coupe. Et à l'inverse, il y en a qui croient que c'est du jus de raisin qu'il faut avoir et pas du vin. Et bien pour nous, ce n'est pas très important. Il y en a qui croient qu'on doit avoir exclusivement une coupe unique au moment de la distribution du vin. Et bien nous, on peut avoir nos préférences, mais on peut aussi avoir à la fois la coupe unique et des coupes individuelles, ou que des coupes individuelles, peu importe. Pour le baptême, il y a des gens qui croient que si on n'est pas baptisé par immersion, on n'est pas baptisé. En ce qui nous concerne, on peut avoir une préférence pour le baptême par immersion, on peut avoir aussi une préférence pour le baptême par aspersion, on peut ne préférer ni l'un ni l'autre tant qu'on est baptisé avec de l'eau. Voilà, peu importe si c'est par immersion ou par aspersion, et ainsi de suite. Ce sont quelques exemples concernant les modalités pratiques d'administration des sacrements, où on peut avoir des positions différentes, même parmi les anciens. Plus généralement, d'ailleurs, les modalités du culte, la longueur de la prédication, le style de musique, les préférences liturgiques. Il y a des gens qui aiment lire des prières, d'autres qui préfèrent prier de façon spontanée dans le cadre du culte. Vous voyez, ce sont des exemples. Autre exemple, la doctrine de la fin des temps, non pas en ce qui concerne le fait que Jésus va revenir et qu'il va revenir corporellement et qu'il va revenir dans la gloire pour juger les vivants et les morts, mais plus dans les détails, c'est-à-dire... est-ce qu'on est, pardon, je vais encore utiliser des mots un peu barbares, mais plutôt amillénariste, plutôt post-millénariste ou plutôt pré-millénariste? Si tant est qu'on arrive à concilier le pré-millénarisme avec la théologie de l'Alliance, mais ça, je ne sais pas, moi, je... Bon, bref, c'est un autre débat, mais amillénariste, ça veut dire, c'est les gens qui croient que quand Jésus revient, il va mettre un terme à l'histoire et au même moment, juger les hommes et inaugurer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Les pré-millénaristes pensent que Jésus va revenir, non pas pour le jugement, mais pour inaugurer un règne de 1000 ans sur terre avec son peuple. Et le jugement viendra au bout des 1000 ans. Les post-millénaristes pensent qu'il va y avoir un règne sur terre, mais qui va précéder le retour de Jésus. Donc, que l'évangile va se répandre de plus en plus, jusqu'à ce que la vie sur terre soit caractérisée globalement par la justice, la bienveillance, voilà. Et puis, Jésus va revenir à la fin de ce règne. Voilà, de ce millénium, si l'on peut dire. Voilà. Bref, on peut avoir différentes positions concernant la fin des temps, vous voyez, si tant est qu'on arrive à la concilier, cette position, avec la théologie de l'Alliance. Et puis je mentionne également un autre exemple, et je le mentionne parce que c'est un sujet qui entraîne souvent des débats houleux entre chrétiens, c'est la question des origines, à savoir notamment l'âge de l'univers, et les modalités précises de la création de la terre et d'Adam. Autrement dit, l'interprétation de Genèse chapitre 1. Alors on peut avoir des positions diverses là-dessus, à condition que l'on retienne la doctrine de Dieu créateur, souverain, intelligent et libre, et juste, que l'on retienne également la doctrine de l'historicité d'Adam et Ève, ainsi que de leur désobéissance originelle à Dieu et des conséquences qui en ont découlé. Si on retient ces aspects qui sont absolument fondamentaux, c'est vrai que sur les modalités, enfin sur les détails, on peut avoir des avis différents. Et ce n'est pas rédhibitoire. J'ajoute encore, et cela va peut-être vous surprendre, dans cette catégorie de doctrines importantes, mais néanmoins secondaires, et qui ne sont pas rédhibitoires pour pouvoir exercer un ministère d'ancien dans le cadre de notre Église, j'ajoute la question du baptême, à savoir, est-ce que l'on baptise les nouveau-nés des croyants, enfants de croyants, ou est-ce qu'on ne baptise les gens que sur la base de leur profession de foi personnelle et publique? Eh bien, vous savez, ni le pédobaptisme, donc la doctrine du baptême des nouveau-nés, ni le crédobaptisme, la doctrine du baptême des croyants adultes, ne sont enseignés, ni l'un ni l'autre, de façon explicite, absolument explicite dans la Bible. Et donc, par honnêteté devant la Bible, on peut être ancien dans notre Église en étant de l'une ou de l'autre position, mais on va y revenir à ce point lorsqu'on va parler de la confession de foi dans quelques instants. Mais bref, vous comprenez que les anciens doivent reconnaître cette distinction entre doctrine absolument essentielle et doctrine secondaire. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même ne place pas toutes ces doctrines au même niveau d'importance. Imaginez que vous passiez votre examen de permis de conduire. Il y a certaines erreurs qui vont vous coûter le permis, tandis qu'il y a d'autres erreurs qui ne sont pas si graves. Si vous oubliez de rétrograder en seconde au moment d'aborder un rond-point, ce ne sera pas aussi grave que si vous prenez le rond-point en sens inverse. D'accord? De même, si vous ne croyez pas au baptême des nouveau-nés de parents chrétiens, c'est une erreur, mais ce n'est pas aussi grave que si vous ne croyez pas à la divinité de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas aussi grave que si vous ne croyez pas à la divinité de Jésus. Les anciens doivent protéger la doctrine avec vigilance, donc, mais aussi avec un certain équilibre. Un équilibre, donc, vous voyez, qui est informé par leur théologie biblique, pas par leur théologie systématique. Parce que à cause de la façon dont une théologie systématique est organisée, toutes les doctrines sont placées au même niveau d'importance. D'accord? Vous voulez savoir qu'est-ce qu'on doit croire concernant le baptême? Vous allez à la rubrique doctrine de l'Église, sacrement, et puis ça occupe autant de place que la doctrine de Dieu. Mais dans la Bible, ce n'est pas présenté comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut en reparler, hein, de la question du baptême, c'est un de mes dadas. Nous en arrivons donc quatrièmement à la question de la confession de foi. Je l'ai dit, hein, en introduction, en tant qu'Église confessante, nous nous référons à un document qui résume de façon assez détaillée la substance de ce que nous croyons. Et cette confession de foi, elle a un nom, elle s'appelle la confession de foi de Westminster, du nom de l'endroit, l'abbaye où cette confession de foi a été rédigée par plus d'une centaine de théologiens au XVIIe siècle. Et à cette confession de foi, on a associé quelques autres documents qui sont secondaires et complémentaires. Vous pouvez tous les consulter sur le site de l'Église. Une confession de foi, c'est donc un document qui a été préparé par un ensemble de représentants de l'Église à un moment donné pour préciser ce que l'Église, représentée par ses représentants, croit. Souvent dans l'histoire, les confessions de foi ont été rédigées parce qu'il y avait un besoin de préciser officiellement ce qui était la doctrine fidèle de l'Église chrétienne pour se prémunir contre des courants de pensée étrangers à la Bible. Donc, en rédigeant les confessions de foi, ces représentants de l'Église ont voulu protéger la doctrine. Vous voyez, ils agissaient selon ce rôle qu'on leur a reconnu déjà dans le point précédent, de protéger la doctrine. Il existe donc un certain nombre de confessions de foi qui ont été rédigées au cours de l'histoire, et notamment des confessions de foi qui ont été écrites entre le milieu du XVIe siècle et la fin du XVIIe, donc pendant, on va dire, 150 ans en étant large. En adhérant à la confession de foi de Westminster, nous, en tant qu'Église, nous nous rattachons de façon délibérée à la longue lignée d'Églises réformées évangéliques issues de la réforme calviniste du XVIe siècle, notamment dans son expression anglo-saxonne qui, d'après l'histoire, a été l'expression la plus aboutie de la réforme calviniste. Parce que dans les autres endroits, comme en France, cette réforme a été combattus et les calvinistes ont été persécutés. Mais dans des pays comme l'Écosse, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou les États-Unis, bien entendu, la réforme a pu perdurer, le mouvement a pu perdurer. Notre confession de foi donc définit pour nous ce que ça veut dire que d'être une église réformée évangélique. Pourquoi une confession de foi ? Parce qu'elle est notre garantie doctrinale. Non pas qu'elle surpasse la Bible en autorité, hein, loin de là, loin de là. Mais elle constitue pour nous le résumé précis de ce que nous croyons être l'enseignement de la Bible sur divers points qui sont, pour le coup, classés sous forme d'une théologie systématique. L'avantage, en tout cas, d'avoir une confession de foi historique, c'est qu'on n'a rien inventé lorsqu'on a démarré notre Église. Notamment notre Église locale, ici, qui a démarré il y a 13 ans avec quelques missionnaires qui sont venus faire de l'évangélisation. Mais ils n'ont rien inventé. Notre confession de foi, c'est notre sécurité doctrinale, en fait. C'est un genre de garde-fou. Et je vous conseille d'ailleurs de prendre le temps d'étudier l'origine historique d'un certain nombre de doctrines qui circulent aujourd'hui sous le couvert du protestantisme évangélique et qui sont en fait, quand on étudie l'histoire, des doctrines très très récentes. Je mentionne deux exemples, par exemple la doctrine pentecôtiste, qui est très récente dans l'histoire, comparée aux deux millénaires qui nous précèdent depuis l'époque des apôtres, et puis un autre exemple, la doctrine adventiste, très récent. Notre confession de foi doit donc être considérée comme un atout majeur dans notre Église, notamment au vu de tout ce que j'ai dit concernant l'importance de la doctrine et, pour les anciens, l'importance de connaître, de dispenser, de protéger cette doctrine. La confession de foi est un atout majeur. Mais je l'ai dit, les anciens doivent être des hommes de la Bible et non pas des hommes de la confession de foi. Des hommes de la Bible, mais non pas des hommes de la confession de foi. La légitimité et l'efficacité du ministère des anciens reposent sur la Bible avant tout, et non pas sur la confession de foi avant tout. La confession de foi, elle n'a aucune puissance pour changer les cœurs et transformer les vies. Mais la Bible, elle a cette puissance. C'est la parole de Dieu. C'est cette épée à double tranchant qui sort de la bouche du chef, Jésus-Christ. Néanmoins, les anciens doivent souscrire à la confession de foi, car ils sont censés respecter ce garde-fou dans l'exercice de leur ministère au sein d'une église confessante comme la nôtre. Les anciens doivent donc bien connaître la confession de foi, car c'est le terrain doctrinal au sein duquel ou sur lequel ils évoluent. Ceci dit, un candidat ancien sur un point secondaire de doctrine peut très bien formuler une réserve par motif de conscience, parce que la confession de foi n'est pas la Bible, ce n'est pas sur le même point. Donc un ancien peut très bien, au moment de rentrer dans son ministère, formuler une réserve par motif de conscience. Et par rapport à ce point, je mentionne quatre exemples, brièvement, qui concernent notre confession de foi. Par exemple, quelqu'un peut mettre une réserve sur, je l'ai dit, le baptême des nouveau-nés, qui est clairement un point de doctrine dans notre confession de foi. Mais un ancien qui n'y souscrit pas, par motif de conscience, peut très bien formuler une réserve. Deuxième exemple, l'interprétation du mot « jour » dans le récit de la création. Parce que la confession de foi se réfère aux six jours de la création. Sans définir ce mot. Donc quelqu'un par motif de conscience peut très bien formuler une réserve par rapport à ça. Troisième exemple, l'identification du pape avec l'antichrist. Les chutes ne dites pas trop fort dans ces lieux. Mais notre confession de foi dit que l'antichrist c'est le pape. D'accord ? Ça s'explique quand on regarde les conditions historiques, le contexte historique dans lequel cette confession de foi a été rédigée. Et les persécutions dont les protestants étaient victimes à cette époque, notamment de la part de l'institution catholique romaine. Et puis quatrième exemple, donc voilà, vous comprenez que quelqu'un peut très bien formuler une réserve par motif de conscience sur ce point, et ne peut-être pas être aussi radical que nos anciens, que nos pères les protestants. Et puis quatrième point, les modalités d'application, ce sont des exemples, il y en aurait d'autres, mais les modalités d'application de la doctrine du sabbat chrétien. Le sabbat chrétien est une doctrine, est mentionnée dans la confession de foi, mais quelqu'un peut très bien... formuler une réserve par motif de conscience là-dessus. Bref, vous voyez que la confession de foi est un atout pour notre Église et même pour l'exercice du ministère des anciens, mais la confession de foi ne surpasse pas la Bible. D'accord ? Et la confession de foi le dit elle-même dans son introduction au sujet d'elle-même, qu'elle n'est pas là pour surpasser la Bible. La confession de foi doit être tenue en estime, mais pas en adoration. Ok ? Enfin, un dernier mot sur la différence et le rapport entre les anciens et les pasteurs. Tout d'abord, les pasteurs sont des anciens. Les pasteurs sont des anciens, c'est-à-dire qu'ils ont normalement la même autorité dans l'église locale que les autres anciens, ni plus, ni moins. Ils doivent remplir les mêmes exigences, telles qu'on les a vues brièvement la dernière fois, l'enregistrement est sur le site de l'église, au sujet des... voilà, quand on a fait le contour un peu du ministère d'anciens et des exigences bibliques pour être ancien. Les pasteurs participent aux réunions du conseil des anciens et leur voix n'est pas prépondérante. Ils ont la même autorité que les autres anciens, leurs collègues. Mais le pasteur n'est pas qu'un ancien. Il est un ancien, oui, mais il est un ancien spécialisé. Et sa spécialité au pasteur, c'est la prédication et l'enseignement. On a l'impression de voir ça dans un verset de Paul quand il dit à Timothée, 1 Timothée 5, verset 17, que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. On a l'impression qu'il y a aussi, parmi les anciens, certains qui sont spécialisés dans ce domaine, la prédication et l'enseignement. Habituellement, donc, les églises locales ont au moins un pasteur qui exerce son travail à temps plein dans l'église, qui est rémunéré même généralement par l'église. Et c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire, ou du moins c'est censé vouloir dire, que ces églises-là accordent une grande valeur à l'enseignement de la Bible, puisqu'ils sont prêts à payer quelqu'un à temps plein pour le faire, pour en faire son travail principal. Le pasteur, donc, et de façon ordinaire, a suivi normalement des études spécialisées, c'est-à-dire une formation en faculté de théologie ou en institut biblique, enfin quelque chose pour le préparer à la spécificité de son ministère. Parce que son travail va consister principalement à exposer et à transmettre l'enseignement de la Bible. Alors qu'est-ce qu'on attend du pasteur ? Qu'est-ce qu'on peut attendre du pasteur ? Sinon qu'il passe de nombreuses heures dans la semaine à étudier la Bible, à lire des ouvrages spécialisés, à lire des commentaires notamment sur la Bible, pour être en mesure de communiquer fidèlement et de façon compréhensible et pertinente la parole de Dieu à l'Église. C'est ça qu'on doit attendre d'un pasteur. Et le jour où notre Église pourra embaucher un pasteur, aura les moyens d'appeler et d'embaucher un pasteur, j'espère que c'est ça qui figurera principalement sur le cahier des charges. Passe du temps, s'il te plaît, dans ton bureau, à lire la Bible, à l'étudier, à lire des ouvrages spécialisés, à t'informer pour pouvoir préparer des bons messages, des bons enseignements fidèles à la parole, et que tu puisses le faire un travail de qualité. J'insiste donc sur le fait que c'est là le rôle principal du pasteur à temps plein. Bien sûr que ce n'est pas là tout son travail. Ce n'est pas là tout son travail, mais c'est son travail principal. Comme Paul l'a dit à Timothée, 1 Timothée 4, versets 14 et 15, « Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Et un peu plus loin, « Applique-toi et sois tout entier à cette tâche. » Les conseils de Paul, l'apôtre, au pasteur Timothée. « Applique-toi à ça, la lecture, l'exhortation, l'enseignement. Sois tout entier à cette tâche. » Et bien sûr, comme je l'ai dit plus haut, et je ne vais pas y revenir, mais cette tâche-là, s'exerce sous l'autorité de l'ensemble des anciens qui, de façon collégiale, sont chargés de connaître, de dispenser et de protéger la doctrine biblique. Alors, pour conclure rapidement, vous voyez que la fonction d'ancien, notamment dans son rapport avec la doctrine de l'Église, c'est une très haute responsabilité. Une très haute responsabilité qui, malheureusement, est bien souvent dévalorisée ou sous-estimée dans bien des églises. Dans bien des églises, un ancien, c'est juste un administrateur. Il est membre du conseil d'administration et il gère l'administration de l'Église. Mais être ancien, d'après la Bible, c'est bien plus que cela. Bien plus que cela. C'est un rôle de lieutenant. Lieutenant de Jésus-Christ. C'est un homme qui a reçu de la part de Christ une autorité à exercer en enseignant et en dirigeant l'Église. Et cette autorité est exercée par le moyen de la parole de Dieu, la Bible, qui est, comme je le disais en introduction, ce fameux bâton de commandement entre les mains du Messie pour conduire, nourrir et protéger son troupeau, son peuple. La doctrine biblique a donc un rôle important dans le ministère des anciens. Mais les anciens ne représentent pas Jésus seulement à travers l'enseignement. Ils le représentent à travers d'autres aspects de leur ministère, et nous commencerons à voir ces autres aspects de leur ministère, la prochaine fois.